Bon, je crois qu'il faut qu'on se parle sérieusement ce matin, parce que là, on a comme un problème, un vrai problème, un gros problème. Trump vient de dire que le cessez-le-feu iranien est clairement sous assistance respiratoire. Le baril dépasse les 100 dollars. La VIX a rebondi de 7% en une séance. Le détroit d'Ormuz est, devinez quoi, toujours fermé. Et vous savez ce que fait le S&P 500? Eh bien oui, il bat son record historique, encore. Bienvenue dans le marché le plus hors sol, le plus délirant de ces 25 dernières années. Ouais, c'est un peu gonflé de dire ça, mais pas loin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi, à mon avis, on assiste encore à un truc que vous raconterez peut-être à vos petits-enfants. Restez jusqu'au bout parce que la fin, ça fait franchement peur. Ce bull market est en train de devenir un espèce de monstre, hein. Soit il est terrifiant, soit on est en train de vivre un truc le plus énorme de l'histoire de la finance. Et il ne faut pas le rater, hein. Mais les statistiques et l'histoire nous disent quand même de faire un tout petit peu gaffe. Ou alors, je suis peut-être simplement trop vieux pour ces conneries. Mais bon, comme j'adore ça, on va quand même continuer. Bienvenue donc dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 12 mai 2026. Et comme par hasard, c'est le jour où je suis né.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Cette fois, c'est donc officiel, rien, mais alors absolument rien ne peut faire baisser les marchés. Et quand je dis rien, c'est rien. Trump peut donc déclarer que le cessez-le-feu iranien est mourant, ça monte. Le baril peut casser les 100 dollars, ça monte. La VIX peut prendre 7% en une séance, ça monte. 39 valeurs du S&P 500 peuvent toucher un des plus bas, leur plus bas des 52 semaines pendant que l'indice bat des records. Ça monte quand même. Et si c'est pas l'IA qui tire, c'est les pétrolières qui poussent. Bonne nouvelle, ça monte. Mauvaise nouvelle, ça monte aussi parce que on va forcément régler le problème un jour. Le problème de la mauvaise nouvelle, un jour on va le régler le problème. Sûrement, bien sûr, sûrement. Le CPI va faire mal ce soir. On s'en fout, c'est dans les prix. La tech, ça fout la trouille parce que ça monte trop vite. Oui. Mais ça monte et on va pas non plus pisser contre le vent. Et puis, c'est cool l'IA, c'est cool la mémoire des semi-conducteurs. Faut pas l'oublier. Et puis alors, vous savez ce qui est vraiment, vraiment, vraiment cool? Bah, c'est Intel qui fait que monter, monter tous les jours. On dirait Cisco au l'an 2000. On est donc passé en mode pilotage automatique vers le firmament et personne ne regarde l'altimètre dans le cockpit tellement ils sont occupés à regarder la Terre qui est en train de s'éloigner. Bon, maintenant, on va essayer de reprendre dans l'ordre, parce que sinon, on va s'y perdre, et vu le niveau de complexité de la situation, déjà qu'on essaye de rationaliser l'irrationnel, si en plus on perd le fil et le nord, en même temps, c'est mort. Ben, tiens, ça rime en plus. Donc, hier matin, le président des États-Unis d'Amérique, cheveux au vent, doigts sur Truth Social, a fait savoir à la planète entière que la réponse iranienne à sa proposition de paix en 14 points était, je cite, « un déchet ». Un déchet, le terme est élégant, raffiné, on sent que la diplomatie américaine a fait travailler ses meilleurs énarques pour trouver le mot juste. Dans la foulée, Trump nous a expliqué que le cessez-le-feu était désormais sous assistance vitale et qu'il ne disposait plus que de 1% de chances de survie. Souvenez-vous ce que ça fait quand il vous reste 1% de batterie sur votre iPhone. On se serait cru sur BFM TV quand on parle de l'antivirus, autant maintenir la peur à son niveau le plus confortable. Petit rappel pour ceux qui étaient en week-end prolongé, et qui prolongent encore sur le week-end suivant, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril dernier, juste après que Trump ait gentiment promis de détruire toute la civilisation iranienne et de les rayer de la carte de la surface de la planète. Vous savez, ce genre de petites phrases qu'on glisse comme ça, entre la poire et le fromage. Le contrat initial était de 2 semaines, Washington l'a prolongé unilatéralement le 21 avril. Et depuis, chaque con accuse l'autre, on a eu des tirs dans Hormuz, des frappes américaines sur des pétroliers iraniens, une attaque attribuée à l'Iran contre les Émirats, bref, le cessez-le-feu light dans toute sa splendeur diplomatique sous Trump 2.0. Du tout, tout, tout grand, n'importe quoi. Ce cessez-le-feu est juste un bricolage qui ne ressemble à rien. Personne ne fait le moindre effort dans les négociations. Il y en a un qui veut du nucléaire et l'autre qui veut bien du nucléaire, mais pas en Iran. Voilà, on est à peu près à ce niveau de subtilité dans les négociations. Et pour couronner le tout, Trump a lâché à un journaliste de Fox News qu'il envisagerait sérieusement de s'autoriser à relancer une opération militaire majeure contre l'Iran. CNN précisait même qu'il était impatient. Et un Trump impatient, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc assez logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète! On achète d'abord parce qu'une mauvaise nouvelle actuellement, c'est une bonne nouvelle parce que ça ira mieux après, mais aussi parce que, voyez-vous, une fois que Trump aura rasé l'Iran, on pourra enfin rouvrir Hormuz et le pétrole va donc logiquement se péter la gueule. Vous voyez le raisonnement? On bombarde aujourd'hui, on consomme demain. C'est ça la rationalité de marché version 2026. Il y a toujours, mais alors toujours un moyen de se raconter que ça ira mieux plus tard pour justifier la hausse débile d'aujourd'hui. Et alors, les tensions militaires, les déclarations vindicatives de Trump, ça a forcément eu des conséquences sur le baril. Des conséquences qui, dans un monde normal, auraient pu faire très mal aux bourses mondiales. Mais comme nous ne sommes pas dans un monde normal, et que cette fois c'est différent, qu'on se le dise une fois pour toutes, eh bien du coup c'est pas pareil. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de banaliser un pétrole à 100$. Trump l'a même dit hier, et je le cite, « Certains disaient que le baril irait à 250 ou 300 dollars, mais il est à peine à 100 dollars !» À peine ! Le mec a déjà oublié que pendant sa campagne, il promettait un gallon à 2 dollars pour tous les Américains. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus proche des 5 dollars que des 2. Mais tout le monde s'en cogne, parce qu'on nous explique que quand le problème iranien sera réglé, le pétrole va replonger et qu'on pourra de nouveau consommer comme des fous. Ça va être tellement, tellement, tellement facile ! Ce matin, le WTI est à 99$, le Brent à 105 et c'est devenu normal, ça ne fait même plus peur. Il y a quelques années, la France était dans la rue avec le diesel à 1,60 parce que c'était insoutenable économiquement. Et quelques années plus tard, tout le monde se bagarre pour partir au pont de l'Ascension avec un diesel à 2,20. Et là, plus un mot, plus une banderole, pas une manif. Tout le monde sur les routes, on regarde l'Eurovision en mangeant des chips et du popcorn et on va acheter des actions Moderna juste pour se couvrir au cas où l'antivirus se propage. À l'heure actuelle, les investisseurs ignorent royalement la hausse du pétrole. Vous pouvez faire défiler à la télé tous les experts du détroit d'Hormuz que la Terre porte. Ils peuvent tous vous expliquer que même si Hormuz rouvrait demain matin, ce qui est très loin d'être le cas, il faudrait des semaines, voire des mois pour revenir à la normale. Plus personne n'en a rien à foutre. On achète tout simplement parce qu'on sait qu'un jour, ça va se régler. Un jour, pas de date, pas de calendrier, juste un jour. Et figurez-vous que ça nous suffit amplement comme horizon temporel. Sauf qu'un baril à 100$ pendant des mois, ça finit forcément par avoir des conséquences. Ça se répercute dans le carburant, dans le transport, dans la chimie, dans l'engrais, dans vos fringues, dans vos pompes, et dans tout ce qui bouge, et dans tout ce qui ne bouge pas, et dans tout ce qui se consomme. Un jour ou l'autre, ça finira forcément par taper le consommateur. Ben voilà, on parie sur le fait que ce jour-là arrivera après le jour où tout sera réglé. Comme ça, on pourra noyer le poisson dans un baril de pétrole. En résumé, si Trump veut faire la guerre, ça monte. Si Trump veut la paix, ça monte aussi. Parce que, vous le savez, à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Et les gentils, c'est nous! Et puisqu'on parle de pétrole élevé, parlons aussi un tout petit peu inflation. Ça tombe bien parce que le CPI américain sort tout à l'heure. Le CPI pas core est attendu à 3,7% en glissement annuel, en grosse accélération. Et le core à 2,7%, celui qui contient pas de pétrole, forcément. Donc de deux choses l'une. D'abord, ces chiffres sont produits par le BLS et entre nous, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut, comme par exemple que le prix du baril n'a pas tant d'influence que ça sur l'inflation. Bien sûr, évidemment, au-delà de tout ça, ce qui est totalement fou, c'est que comme tout le monde sait que les chiffres vont monter, personne ne sera surpris. Tout est dans les prix. C'est ça la stratégie de communication ultra-moderne. Si tu sais qu'un chiffre de merde va sortir, autant préparer les foules à l'avance. Comme ça, ça passe crème et ça va passer crème parce que tout le monde se dit déjà « Oui, bon, d'accord ». Le CPI est en hausse, l'inflation monte, mais ça, on le savait. On a oublié que la Fed a un target à 2% sur l'inflation et qu'on est à 3,7. Et puis tout le monde a eu une augmentation de salaire de 4 ou 5% ces 12 derniers mois, voire même 10. Donc cette inflation à 3,7%, on va même pas la remarquer. Il y a donc rien à craindre parce que tout est dans les prix, tellement dans les prix qu'il n'y a plus une seule baisse de taux anticipée pour 2026 alors qu'on en anticipait deux avant la guerre. Donc on a pétrole en hausse, taux qui reste haut, inflation qui repart, et le S&P qui prend ça comme une excellente nouvelle. Pourquoi ? Eh bien parce que si le CPI sort conforme aux attentes, haut mais conforme aux attentes, ça confortera l'idée que la Fed n'a pas besoin de relever ses taux. Ouais, vous m'avez bien entendu, hein. Aujourd'hui les experts sont en train de se taper dans le dos et en train de se convaincre que si la Fed ne monte pas les taux, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais c'est quoi la prochaine étape de cette gymnastique mentale alors ? Bah peut-être la prochaine étape, c'est si la Fed ne monte les taux que de 25 points bas, c'est bien, parce que ça aurait pu être 50, voire 75, donc c'est bien. Bah moi, je veux bien être bullish, optimiste, enthousiaste, motivé pour l'avenir radieux du capitalisme, mais il y a quand même un moment où je me dis qu'il y a un truc qui déconne dans la logique globale. Ce matin, l'Asie montouille la Corée, prend les profits à cause de la grève chez Samsung, mais on se dit que si ça bousille 3% du volume des mémoires dans le monde, bah ça va faire monter les prix, donc c'est bullish. Le tout sur fond de futur S&P légèrement en baisse, de CPI américain dans quelques heures et de Trump qui s'apprête à débarquer à Pékin avec son menu habituel, Iran, commerce, nucléaire, Taïwan, IA, terres rares, Musk, Cook, le grand classique. En attendant, l'or est à 4731, le bitcoin frôle les 82 000, le 10 ans américain est à 4,42 et le 10 ans japonais offre maintenant un rendement de 2,53. Ça monte, ça monte, ça monte, mais c'est sûrement un bon signe pour le Japon. Donc voilà, le S&P 500 est au plus haut, le Nasdaq est au plus haut, le SOX est au plus haut, les semi-conducteurs sont en folie à la limite du hors-sol, mais on commence quand même à se poser quelques questions. On l'a dit hier, hein, tous les titres du S&P 500 ne sont pas en plein délire. La surperformance est concentrée sur 22% des actions. Le reste, ça rigole moyen. Le S&P 500 a pris 17% depuis le cessez-le-feu et est en train de péter les plombs. Le tout avec un baril à 100 balles, une inflation qui repart, Hormuz qui est bloqué et le président qui veut rebombarder. Si c'est pas un bull market shooté aux stéroïdes et à l'EPO, je sais pas ce que c'est. Et si c'est pas des stéroïdes ni de l'EPO, je sais pas, mais ça doit être de la bonne. En attendant, le doute s'installe. On nous sort donc des statistiques à l'appel pour expliquer qu'il y a un truc qui déconne quelque part. Et tenez-vous bien, vendredi dernier, le S&P 500 a touché un nouveau record, ça on le sait, alors qu'il y avait plus de nouveaux plus bas à l'intérieur du S&P 500, dans les composants de l'indice. C'est la troisième fois depuis 1990 que ce genre de situation se produit. Si vous avez un doute, les deux fois précédentes, c'est pas vraiment l'apothéose qui a suivi. Pire encore, c'était la première fois en 30 ans qu'un indice clôture à plus de 7% au-dessus de sa moyenne mobile des 50 jours, avec aussi peu de titres au-dessus de leur propre moyenne mobile de 50 jours. Et hier, 39 valeurs du S&P 500 ont touché les plus bas de 52 semaines, soit 7,8% de l'indice, pendant que l'indice lui-même faisait un nouveau record. On se rapproche donc dangereusement des 8% qu'on avait atteint fin 99. Fin 99. Vous vous rappelez ce qui s'est passé après ? Moi, je me rappelle très bien. J'ai même encore un tout petit peu mal, mais ça cicatrise gentiment. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'avant le crash, on a encore monté 3-4 mois. Donc, on peut encore avoir une extension. Maintenant, parlons des semi-conducteurs rapidement, parce que c'est là que le ridicule devient sublime. Le SOX a bondi donc de 71% depuis fin mars. C'est officiellement le plus gros rallye depuis la bulle dot-com de l'an 2000. Mais bon, cette fois, c'est différent. Cette phrase, d'ailleurs, il faudra qu'on l'inscrive au Hall of Fame avec celle de 29, 87, 2000, 2007 et maintenant peut-être 2026. Et hier, d'ailleurs, Nvidia a clôturé au plus haut de tous les temps. C'est le troisième record de clôture de l'année. La boîte a pris 550 milliards de capitalisation boursière en 4 séances. 4 séances. Pour vous donner une idée, il n'existe que 18 entreprises américaines qui valent plus de 550 milliards au total. Nvidia a donc ajouté l'équivalent de la 19e plus grosse capitalisation américaine en 4 jours à sa propre capitalisation boursière. Qualcomm, par exemple, a pris 8% de plus hier. La boîte a fait plus 40% en 5 séances. L'objectif moyen des analystes est à 176$. La clôture d'hier est à 237. Heureusement que les analystes se gourrent tout le temps, sinon ça serait gênant. Micron a pris encore 6,5%. SK Hynix 12 à cause de la grève Samsung. Micron a pris 150% en 6 semaines. Lumentum a pris 17% hier parce qu'ils vont rentrer dans le Nasdaq 100 le 18 mai à la place de Costa. La boîte a pris 200% depuis janvier. 200% en 4 mois, une action qui prend 200% en 4 mois, ça ne veut rien dire de particulier, ça veut juste dire qu'on a définitivement oublié comment fonctionne un marché rationnel. Intel continue de monter tous les jours comme un métronome, et Tesla, qui ne fait pas de semi-conducteurs, enfin pas encore, mais ça viendra, a pris 3,89% parce que les investisseurs anticipaient de nouvelles, bonnes nouvelles sur la conduite autonome. Bien sûr, la conduite autonome, évidemment, comme depuis 10 ans. Aujourd'hui, on est tellement convaincu que l'IA va tout révolutionner qu'on achète l'usine du sous-traitant du fournisseur, le cousin du fournisseur, le dépanneur de longue du cousin du fournisseur qui connaît Sam Altman. C'est juste trop bon. Donc voilà, nous sommes mardi matin, on récapitule rapidement la situation. Trump a dit que le cessez-le-feu est cliniquement mort, le pétrole se balade au-dessus des 100 dollars comme s'il avait toujours été là, le CPI va sortir en forte hausse, la Fed ne baissera pas les taux, peut-être qu'elle va les monter mais pas trop donc c'est une bonne nouvelle, le VIX grimpe, la brèche de marché est aussi étroite qu'un fil dentaire, tous les rapports d'analyse contiennent maintenant des comparaisons avec mars 2000 et le S&P 500 bat des records pendant que 39 de ses propres composants touchent des plus bas annuels et tout le monde rigole. Ed Yardeni, vétéran de Wall Street, vient de coller un nouvel objectif à 8250 sur le S&P, en ajoutant que les 10 000 prévus en 2029 pourraient tomber plus tôt. RBC parle déjà de 7900 et HSBC 7650 puis 8000 juste derrière. Robert Edwards, lui, pense dans un de ses grands moments d'extase qui font les grands sommets, le setup est trop beau pour être raté. C'est exactement mot pour mot ce que disaient les gens en février 2000, en octobre 2007 et en janvier 2022. Et puis alors, il y a Dan Ives qui pense que le Nasdaq sera bientôt à 30 000 et que tous les pessimistes seront ridiculisés. Mais bon, jusque-là, tout va bien et finalement, c'est ça qui compte, hein, on est d'accord. Bref, on est au plus haut, on n'a plus peur, il n'y a donc pas de questions à se poser. J'en profite pour vous annoncer que je viens de lancer mon nouveau site, mon propre site, qui s'appelle morningbull.ch. Dedans, il y a plein de trucs qui sont prévus, je vous laisse aller voir. Pour le reste, on se voit demain à la même heure et au même endroit. D'ici là, on like, on partage, on commente, on s'abonne à la chaîne tout en activant la cloche. Et merci, merci à tous d'être là tous les matins, aussi nombreux. Allez, bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.